France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Deux actualités fortes, majeures même au Proche-Orient. D'abord, la libération des 20 derniers otages vivants détenus par le Hamas, remis ce jour à la Croix-Rouge, à l'armée israélienne et ramenés à leur famille après 738 jours de captivité. En parallèle, un sommet sur l'accord de paix en Égypte à Sharm el-Sheikh qui rassemble plus d'une vingtaine de dirigeants du monde entier avec l'absence notable du Premier ministre israélien et des représentants du Hamas. Alors cette double actualité est porteuse d'espoir, mais ouvre-t-elle le début de la fin de la guerre ? La paix éternelle promise par le président des États-Unis aura-t-elle lieu ? Trois invités pour en débattre ce soir. François Sekaldi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, chercheur au Collège de France. Face à vous, Anne-Sophie Seban-Bekash, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'American Jewish Committee en Europe et docteur en géopolitique. Face à vous, Karim Émile Bitar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
Je suis en route pour Reim, pour retrouver mon fils Nimrod, après plus de 2 ans. Je suis tellement heureuse. Je suis comblée de bonheur et j'ai du mal à imaginer ce que je ressens en ce moment.
C'est tellement émouvant et bouleversant que cela se réalise enfin. Que ce pour quoi nous nous battons depuis plus de 2 ans aboutisse enfin.
Vingt hommes âgés de 21 à 48 ans, 20 derniers otages vivants détenus par le Hamas, remis ce jour à la Croix-Rouge puis à l'armée israélienne, ramenés à leur famille après 738 jours de captivité. Anne-Sophie Seban-Bekash, qu'est-ce que cela représente pour les Israéliens et pour la société israélienne tout entière ?
C'est le sentiment d'avoir enfin terminé cette journée qui a été le 7 octobre 2023. C'est le sentiment de pouvoir enfin commencer la réparation, le deuil pour les familles qui, on l'espère, récupéreront aussi les corps des 28 otages qui restent. C'est un immense soulagement, une immense émotion pour nous aussi, pour tous les activistes qui ont œuvré depuis 2 ans auprès de ces familles. Et d'ailleurs, j'aimerais juste prendre une minute pour leur rendre hommage, parce que depuis le 7 octobre 2023, à l'American Jewish Committee, on a accompagné des dizaines et des dizaines de familles à Washington, à Paris, à Bruxelles, pour faire entendre leur voix, l'histoire de leur famille, ce qu'ils ont vécu le 7 octobre, comment leurs proches ont été enlevés, torturés. Une partie a été tuée, violée, des enfants brûlés. Et j'aimerais leur rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est leur détermination, c'est leur courage depuis 2 ans de ne pas avoir lâché ce combat qu'on croyait vraiment... c'est vraiment inespéré, c'est vraiment un miracle ce qui se passe aujourd'hui. On nous aurait dit il y a 2 semaines qu'on arriverait à un accord qui permettrait de libérer tous les otages, quand on sait que le fait que le Hamas détenait encore des otages constituait... une soupape de sécurité et une monnaie d'échange, ça paraissait irréalisable et on y est aujourd'hui. C'est presque irréel, mais on savoure en Israël et partout ailleurs ce moment.
Rachel Goldberg, une mère d'un otage tué pendant sa détention, a déclaré « Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer et nous devons faire les deux en même temps ». Est-ce que c'est cela peut-être la tension aujourd'hui, Karim Émile Bitar ? Il faut pleurer les morts et accueillir les vivants.
Cette phrase est émouvante et révélatrice parce que c'est précisément la raison qui doit nous faire pousser un immense ouf de soulagement aujourd'hui, quand bien même il y aurait mille et une raisons d'être sceptique. C'est qu'on sent cette émotion, parce qu'on a tendance, les géopolitologues, les journalistes, etc., à oublier que dans cette région, il y a d'abord des êtres humains de chair et de sang qui ont vécu un calvaire, qui sont passés par perte et profit, qui sont parfois cyniquement abandonnés par leur propre gouvernement. Donc, oui, il y a cette idée qu'une page est en train de se tourner. J'espère, cela dit, qu'on peut définitivement tourner la page du 7 octobre, car la cicatrisation mémorielle prendra beaucoup de temps. Je ne suis pas sûr que nous puissions déjà dire que nous entrons dans une nouvelle ère. c'est une cessation des hostilités, mais l'histoire du Proche-Orient nous enseigne que beaucoup de cessez-le-feu n'ont pas fait long feu. Aujourd'hui, il faut se réjouir, il faut partager l'émotion des familles des otages, des familles des milliers de prisonniers palestiniens qui ont également été libérés dans le cadre de cet accord, mais il ne faut pas oublier que nous restons otages du cynisme d'un certain nombre de puissances régionales et internationales. Quand on voit Trump aujourd'hui rendre un hommage appuyé au Qatar qu'il accusait de financer le terrorisme il y a encore quelques années, quand on voit l'obsession pour le prix Nobel de la paix qui a un peu précipité cette annonce et ce qui doit également nous inciter à être prudents car beaucoup de détails ne sont pas encore clairs. Donc il faudra voir, le diable se niche dans les détails au Proche-Orient plus qu'ailleurs, il faudra voir ce qui a vraiment été négocié, qu'est-ce qui sera respecté de part et d'autre pour pouvoir envisager l'avenir.
On va revenir bien sûr sur ces détails, hein, sur les notions de cessez-le-feu, de paix durable, mais avant ça, François Sekaldi, lorsque vous entendez que le 7 octobre est achevé, que l'on tourne aujourd'hui cette page du 7 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est peut-être une page qui est tournée pour les Israéliens. Ça n'est pas le cas, à mon avis, pour les Palestiniens. Et ça n'est pas le cas de toute façon. C'est, à mon avis, la fin d'une séquence de ce conflit dans laquelle, effectivement, les otages ont été libérés. Mais c'est un échange asymétrique, pour revenir sur cette question des otages. Parce que malgré les quelques 2000 détenus palestiniens libérés, il en reste encore 9 000, dont 3 500 détenus sous le régime de la détention administrative, c'est-à-dire retenus sans charge, sans procès, sans accès à un avocat, sans que les familles ne sachent où leurs proches sont détenus, et pour une période de 6 mois renouvelable indéfiniment. Donc, quid de ces 3 500 détenus sans charge dont les conditions de détention s'apparentent à la définition internationale de celle des otages. Mais évidemment, je pense que non, on n'est pas du tout dans une situation de fin de conflit. On est bien, on y reviendra sûrement, on est bien au contraire, toujours dans cet état-là. Tout simplement parce que les questions essentielles sont pas résolues. Et notamment, la première d'entre elles, c'est celle de l'occupation, qui n'est pas traitée dans l'après-Gaza. Et je rappelle que l'occupation, c'est dans les conventions de Genève, il est clairement dit que l'occupation, on ne parle pas d'occupation, on parle d'occupation belligérante. C'est-à-dire que l'occupation est par nature agressive, l'occupation est par nature guerrière. C'est un acte de belligérance. Il n'y a pas d'occupation pacifique, si vous voulez, ça n'existe pas. Donc, tant que l'occupation perdure, la guerre, par définition, continue. Et ça, c'est, je crois, la responsabilité directe des Israéliens d'y mettre fin. Et malheureusement, ce n'est pas une politique accidentelle, c'est une politique active menée par les Israéliens depuis des décennies. Et donc là, je crois qu'il y a un élément essentiel auquel il va falloir quand même s'atteler, c'est cet acte de belligérance primordiale qui se situe ici, dans l'occupation.
On va revenir sur l'occupation, Anne-Sophie Seban-Bekash, mais une réaction d'abord sur l'échange asymétrique qui a été décrit par François Sekaldi. On rappelle qu'une vingtaine d'otages israéliens détenus par le Hamas ont été remis à Israël contre un peu moins de 2000 prisonniers qui ont été ramenés à Gaza ou en Égypte, hein, c'est selon. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce terme-là, un échange asymétrique ?
Asymétrique dans quel sens ? Parce que là, je ne comprends pas très bien ce qui vient d'être dit. À chaque échange, à chaque accord de cessez-le-feu, il y a eu quelques otages israéliens libérés. On parle d'otages qui étaient des enfants, des femmes qui ont été enlevées dans leur lit, chez elles, dans leur maison, un matin du 7 octobre, dans leur kibboutz, dans leur moshav. Et on parle en face de plusieurs centaines à chaque fois de prisonniers. En l'occurrence, pour cet accord de cessez-le-feu, on parle de 250 terroristes d'abord qui ont du sang de civils israéliens sur les mains, qui ont été coupables d'attentats terroristes en Israël. Et ensuite de 1200 effectivement prisonniers palestiniens qui ont des charges tout aussi graves parfois qui ont été retenus contre eux. Je comprends pas vraiment. Enfin, la symétrie, pour moi, elle se fait effectivement dans l'autre sens. C'est un lourd sacrifice que fait à chaque fois Israël pour obtenir la libération de ses civils en échange de personnes qu'on considère. Et je pense que tant qu'on considérera et qu'on continuera à dire, y compris dans les médias ici, que ces prisonniers sont des prisonniers politiques et qu'on ne fera pas la différence entre des terroristes et des militants politiques, je pense qu'on ne sert ni la cause palestinienne ni la cause de la paix.
Alors je vous laisse préciser effectivement François Sekaldi, puisque du point de vue numérique, on peut se dire que les personnes libérées d'un côté et de l'autre, hein, l'avantage numérique, strictement numérique, est plutôt là cette fois-ci du côté des Palestiniens, non ?
Oui, mais en fait, il y a une erreur analytique.
Pas 1200, pardon.
Il y a une erreur analytique parce qu'on compare des chiffres alors même que je compare des situations juridiques. Il se trouve que les 1700 Palestiniens qui ont été libérés sont 1700 Palestiniens qui ont été arrêtés sans aucune charge et qui, par conséquent, ont été libérés. Et je maintiens ce que je dis. Enfin, si on arrive à s'émouvoir de 20 ou 40 ou 250, et c'est bien légitime, otages détenus sans aucune raison légale ou sans aucun fondement légal, je crois qu'il est tout aussi important de pouvoir s'opposer à la détention administrative sans aucune charge de milliers, je ne parle pas ni de dizaines ni de centaines, de milliers de Palestiniens. Ça fait partie d'une politique systématique d'Israël d'emprisonner. Il n'y a pas une famille en Palestine qui n'a pas un membre de sa famille qui est allé en prison, et bien souvent sans aucune raison, sans aucun motif, sans aucune raison avancée juridique.
Je reviens, Karim Emile Bitar, à l'enjeu premier de cette discussion, savoir si cette journée marque une première étape vers une paix durable. Cette notion de paix durable, d'abord, il faut la raccrocher à celle de cesser le feu. Où nous trouvons-nous aujourd'hui ?
Alors, Donald Trump a été encore plus loin en parlant de paix perpétuelle. Et je suis curieux de savoir...
De paix éternelle, même, un peu plus tôt dans l'après-midi.
Je suis curieux de savoir lequel de ses conseillers lui a soufflé cette expression, parce que c'est paix perpétuelle, c'est d'abord souvent quelque chose qu'on retrouve plutôt dans les ouvrages de Robert Darnton, que vous allez recevoir dans 30 minutes. C'est une idée qui vient d'Emmanuel Kant, au départ, qui a été remise au goût du jour par Habermas il y a quelques années. Et là, on en est très loin. Nous en sommes très loin parce que Donald Trump continue de voir ce conflit en disant « ça fait 3000 ans que ces peuples s'entretuent ». Donc c'est cette vieille idée que c'est des rivalités ancestrales, tribales, sans prendre en compte la situation spécifique qui est née au cours des 70 dernières années du fait de cette occupation, du fait de l'asymétrie, du fait que beaucoup de gens à travers le monde ont le sentiment qu'il y a une inégalité des vies, comme le dit Didier Fassin. Donc la paix durable, nous en sommes loin, car toutes les questions de fond ont été repoussées au calendrier grec. On a voulu faire un accord, on a voulu que M. Trump apparaisse en héros. On peut se réjouir aujourd'hui qu'il y ait un bref répit. Mais comme à l'époque des accords d'Oslo, rien n'est réglé des 5 questions de fond.
Quelles sont-elles alors, ces 5 questions ?
Les 5 questions de fond qui font obstacle à une véritable paix israélo-palestinienne, c'est la question de la colonisation, la question de la poursuite de l'occupation, la question du statut final de Jérusalem, la question des ressources hydrauliques et la question des réfugiés, des Palestiniens qui vivent dans plusieurs autres pays depuis des décennies. Donc, ces 5 obstacles, au moment des accords d'Oslo, on a pensé pouvoir les éluder, commencer par des faits accomplis, des solidarités de fait, une paix économique qui pourrait nous amener vers une véritable paix durable. Or, si la paix ne se fonde pas sur la justice, elle ne peut pas perdurer, elle ne peut pas être durable. Le problème avec le projet de Donald Trump, c'est qu'il revient à cette idée de paix économique. Il pense qu'en noyant Gaza dans des investissements qui viendraient du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, on pourra faire abstraction de ces problèmes de fond. Pour les Palestiniens et pour beaucoup de gens à travers le monde, le problème de fond, c'est celui de la reconnaissance de la dignité et des droits nationaux du peuple palestinien. Et c'est en partie symboliquement important que aujourd'hui plus de 150 pays aient reconnu cet État de Palestine, même si ses contours restent indéfinis et que je vois mal comment il pourrait être viable.
Dans la continuité de ce que vient de dire Karim Émile Bitar, une citation du politiste Jean-Paul Chagnolot dans une tribune qui a paru dans Le Monde. Il écrit « Le plan Trump ignore toute référence au droit international et aux Nations Unies. Il récuse également toute véritable participation des Palestiniens à la gouvernance et ne fait qu'évoquer un État palestinien en des termes si vagues que cela revient à l'enterrer comme le veut le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Enfin, ce plan oublie la Cisjordanie alors que Washington soutient à fond la colonisation. » Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord, Anne-Sophie Sebambekash, avec l'idée selon laquelle aucun véritable problème de fond n'est aujourd'hui résolu par ce plan dit plan Donald Trump?
Mais parce que je crois qu'on s'est trompé dans l'analyse de ce plan. Ce plan était avant tout un plan de cessez-le-feu, un plan pour mettre
et
fin à cette guerre.
Et pas un plan de paix.
Non, c'est pas un plan de paix. Enfin, moi, je ne considère pas aujourd'hui que le plan de Trump est un plan de paix. C'est un plan qui ouvre des perspectives à travers ces 20 points. Mais effectivement, le principal objectif, et c'est pour ça que il me semble que c'est une opportunité historique, parce que jusque-là, on n'avait pas réussi à obtenir la possibilité d'un cessez-le-feu durable qui commence donc par la libération de tous les otages, le retrait de l'armée israélienne, le potentiel, on l'espère, désarmement du Hamas et sortie de la gouvernance de Gaza. Ces étapes-là, elles sont indispensable à pouvoir penser une perspective ensuite, effectivement, de paix où on pourra aborder tous les thèmes qui ont été abordés à juste titre. Mais je pense qu'on met que tout le monde veut un peu mettre la charrue avant les bœufs et que ce n'est pas l'attente, enfin, ce n'est pas l'objectif qu'a posé le président Trump avec cet accord.
Il parle quand même de paix perpétuelle, en l'occurrence. C'est la notion qu'il associe à son plan aujourd'hui lui-même.
Oui, bien sûr, parce qu'il veut ouvrir cette perspective. Mais en l'occurrence, on voit bien qu'on est dans étape par étape. C'est-à-dire que là, on essaye de sécuriser ce cessez-le-feu, on a sécurisé la libération des otages, ce qui est en train de se jouer au sommet à Sharm el-Sheikh avec le Qatar, l'Égypte, la Turquie et les États-Unis comme principaux acteurs médiateurs, c'est d'assurer le maintien d'un soutien arabe ferme sur les 20 points et notamment sur le premier point d'achoppement qui va être le désarmement du Hamas. Et c'est vers quoi on souhaite aller et ensuite seulement on pourra parler du reste.
Les cinq points qui ont été mis en lumière par Karim Emile Bitar, le problème de la colonisation, celui de l'occupation, celui du statut de Jérusalem, les questions hydrauliques et la question fondamentale des réfugiés palestiniens. Est-ce que pour vous, ce sont, François Secaldi, les cinq points primordiaux ou est-ce que vous en voyez d'autres manquants ?
Alors, il y a parmi ces cinq points les points du statut permanent qui ont été négociés, qui devaient être négociés à l'issue de la période intérimaire des accords d'Oslo, donc en mai 1999. Il n'y avait pas l'occupation dans le statut permanent. Mais oui, il me semble que effectivement, c'est là les points principaux à négocier, c'est-à-dire et c'est par ailleurs les points les plus sensibles. C'est probablement la raison pour laquelle ils n'ont pas été négociés. Ils ont été repoussés en mai 1999 jusqu'à la négociation de Camp David en juillet 2000. Et jusqu'à maintenant, ces questions, en fait, ne sont, pour ainsi dire, plus du tout à l'ordre du jour. Et il faudrait. Et Karim Bitar a ajouté un point qui m'apparaît important, c'est la question de la justice, effectivement, parce que vous avez des mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant et les membres du Hamas, mais qui sont morts. Maintenant. Vous avez en septembre la déclaration de génocide par la commission d'enquête de l'ONU. Donc tous ces éléments-là, quand même, vous avez par ailleurs 67 000 à minima, 67 000 Palestiniens qui ont été tués. Les estimations les plus élevées vont jusqu'à 400 000 personnes. La bande de Gaza a été totalement détruite. Là, il y a une question de justice fondamentale qui se pose et qui doit être réglée, sans laquelle, évidemment, la paix n'est pas du tout possible. Donc, les questions du statut permanent et la justice.
Karim Emile Bitar, une réaction. Et après, je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur ce point important aussi du désarmement du Hamas. Karim Emile Bitar.
Alors, sans avoir la moindre sympathie pour Donald Trump, il faut quand même reconnaître que dans cet accord, il a réussi à brider Netanyahou et à le contraindre à renoncer à certaines positions maximalistes. C'est-à-dire qu'il n'est plus question aujourd'hui d'expulser 2 millions de Gazaouis, comme Smotrich le souhaitait ouvertement. Il n'est plus question de recoloniser Gaza. Il n'est plus question d'annexer la Cisjordanie. Et on réintroduit l'aide humanitaire sous surveillance de l'ONU. En écartant cette mal dénommée Gaza Humanitarian Foundation, qui s'est avérée être une opération de barbouzerie où les Palestiniens étaient attirés et tirés comme des lapins. Donc, Trump a utilisé quand même, pour une fois, le levier américain pour faire pression sur Israël. Pourquoi ? À mon avis, essentiellement parce qu'il a vu que ses amis dans le Golfe commencer à considérer qu'Israël était allé trop loin, notamment en frappant directement le Qatar, qu'Israël était en train d'instaurer une hégémonie régionale. Trump craignait pour les accords d'Abraham, craignait pour ses relations de business avec les pays du Golfe. Donc il a contraint Netanyahou à accepter un projet qui peut-être auquel il ne souscrit pas pleinement, tout comme le Hamas a renaclé, et je pense qu'ils ont également publié un communiqué, si j'ai bien compris, avec des fanfaronnades refusant le désarmement, etc. Il y a toujours au sein du gouvernement israélien des gens qui ne sont pas contents. Monsieur Smotrich fait une déclaration hallucinante il y a quelques jours, disant que le 7 octobre, c'était une grâce divine. Ça rappelle la formule de Maurras, la divine surprise. Il disait, c'est un coup de poing qui nous a réveillés de notre léthargie et il faut aller au bout. Donc, il y a encore des jusqu'au-boutistes qui sont déterminés à aller plus loin. Et j'espère qu'après la libération des otages, ils ne vont pas sauter sur le premier prétexte venu pour reprendre cette logique coloniale totalement débridée.
J'en reviens, François Sekeldi, au désarmement du Hamas. Est-ce que il vous semble aujourd'hui que l'organisation est prête à suivre les engagements qu'elle a pris dans ce domaine ?
Il me semble que le Hamas a déclaré qu'il n'était pas prêt à se désarmer.
Il a laissé entendre, notamment à travers ses émissaires égyptiens, qataris, qu'il potentiellement serait prêt à le faire.
Alors les dernières déclarations que j'ai lues indiquent qu'au contraire, ils n'entendent pas du tout se désarmer. Cela dit, c'est une exigence tout à fait classique de la communauté internationale depuis des décennies. Je ne sais pas si c'est la responsabilité des États tiers de décider et si c'est pas davantage au mouvement national dans son ensemble de décider, mais ça pose plusieurs questions. Bon, la première, c'est qu'effectivement, c'est une exigence de la communauté internationale, je l'ai dit. Désarmer, détruire l'infrastructure du terrorisme, c'était le cas contre l'OLP en 1982, c'était le cas en 2023, c'est l'argument principal qui a été avancé par les Israéliens pour mener la guerre qu'ils ont menée à Gaza sans succès. C'était détruire toute l'infrastructure du Hamas sans succès. Donc on voit que cette stratégie, malheureusement, ne paye pas. Tout simplement, je vais peut-être me répéter, c'est que probablement le meilleur moyen de faire taire les armes, c'est de cesser l'occupation. Et c'est à mon avis là le point sur lequel il faudrait que les États se concentrent s'ils souhaitent véritablement. Et puis il reste une deuxième question, la question de la réciprocité. En fait, c'est aussi comment contrôler la puissance de frappe d'Israël qui a été qui s'est exprimée sans que personne ne puisse les arrêter, alors même que les crimes étaient manifestes pendant des mois et des mois et pas seulement en Palestine, partout dans la région.
Une réaction sur ce sujet, celui du désarmement du Hamas, Anne-Sophie Sebon-Bekash.
Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de ce désarmement, tout simplement parce qu'on n'a jamais eu de moment, depuis le 7 octobre 2023, où toute la pression internationale s'est dirigée contre le Hamas. Nous, c'est ce qu'on demandait depuis le départ. Il faut mettre la pression sur le Hamas pour la libération des otages et pour son désarmement. On a aujourd'hui un soutien massif des États arabes qui peuvent avoir une influence, à commencer par le Qatar, par l'Égypte. Et donc je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'y arriver et que sans cette condition-là, on ne pourra pas avancer sur aucun autre dossier pour arriver à une résolution de ce conflit. Et j'entends mes voisins qui disent on ne pourra pas arriver à la paix sans justice. J'ajoute aussi qu'on ne pourra pas arriver à cette paix sans discours de vérité. Et il y a des discours et des narratifs qui continuent à être martelés sur ce conflit, qui nous confinent au chaos, qui nous confine à l'impasse depuis des décennies. Et c'est là où, effectivement, le style de Donald Trump, sa manière de faire, on n'est pas tous fans, mais il n'empêche qu'il a réussi à mettre sur la table, pour commencer, ce cessez-le-feu, qui est un prémisse à la suite et qui ouvre les... C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de plan de paix, parce que sans ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, on ne pourrait pas aujourd'hui parler de la suite et de perspectives de résolution politique. Et pour ce qui est de l'occupation, enfin, il faut arrêter aussi avec ce terme-là qui est très vague. Et il faut savoir aussi avoir un discours de vérité là-dessus. Il y a eu des dizaines de négociations sur ce sujet. Israël a été à plusieurs reprises prêt à se retirer de territoire, à faire des échanges de territoire. On sait très bien quels sont ces paramètres. Soyons honnêtes, on sait très bien quels sont les paramètres pour une résolution sur les questions territoriales. Idem sur la question des réfugiés. Enfin, je veux dire, il y a un sujet avec l'autorité palestinienne aussi, et tout le monde s'accorde pour le dire. C'est aussi un sujet sur lequel s'accordent les Européens, la communauté internationale, de nécessité de réforme en profondeur de l'autorité palestinienne. Et quand on dit ça, c'est pas que la corruption, c'est pas que les élections et renouveler le leadership, c'est aussi changer ce narratif. Tant que le président Mahmoud Abbas gardera la clé sur son veston de la maison de 1948, on ne pourra pas résoudre ce conflit. Et tant qu'on n'est pas capable de le dire et d'être honnête pour le dire, je pense qu'on n'y arrivera pas.
Une réaction, Karim Émile Bitar, notamment sur ce terme d'occupation. C'est tout de même un terme qui a une consistance et une réalité derrière.
Absolument. Aux yeux du droit international, il n'y a absolument rien de flou dans cette notion. Il y a un consensus international. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a également un consensus aujourd'hui dans la classe politique israélienne qui va de la gauche à l'extrême droite pour refuser l'idée même d'un État palestinien. Lorsqu'il y a eu toutes ces négociations dans le passé, les négociateurs américains finissaient par dire « nous avons proposé » les Israéliens étaient peut-être de mauvaise foi, les Palestiniens ont refusé, etc. Mais l'idée d'un État palestinien restait un horizon nécessaire pour la plupart des grandes puissances. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ni pour la société israélienne, ni pour les États-Unis. Et il y a un problème de fond, c'est celui de la reconnaissance de l'histoire, de la dignité. Pour pouvoir tourner une page, il faut d'abord la lire. Pour les Palestiniens, ce qui compte, ce n'est pas tant le droit au retour. Ils sont réalistes. Tout le monde sait qu'il n'y a pas 5 millions de Palestiniens qui vont revenir du jour au lendemain. Mais comment expliquer à un monsieur qui est né en Palestine en 1940, qui a vu toute sa famille expulsée en 1948, qu'il n'a pas le droit de revenir vivre ses derniers jours dans son village, alors que n'importe quel juif qui viendrait d'Ukraine, de Biélorussie ou de Brooklyn pourrait du jour au lendemain être accueilli, devenir citoyen et aller vivre comme colon protégé par l'armée israélienne dans ses territoires. Donc il y a une reconnaissance symbolique. Et je suis tout à fait prêt à reconnaître que du côté arabe, il y a également la nécessité de reconnaître et de faire un travail beaucoup plus profond sur le traumatisme qu'a représenté pour le peuple juif la Shoah. Le 7 octobre a réveillé le traumatisme des pogroms de la Russie tsariste, le traumatisme de la Shoah. Il faut prendre cela en considération. Mais l'asymétrie, le décalage entre le rapport de force est tellement flagrant que s'il n'y a pas des pressions internationales très fortes et des sanctions, Israël persévérera dans cette logique maximaliste et qu'il faut bien appeler une logique coloniale. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Theodor Herzl qui le disait dès 1897. Je suis porteur d'un projet colonial. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le colonialisme est passé de mode. Beaucoup de gens dans le monde considèrent que c'est la dernière question coloniale et c'est pour ça qu'ils ressentent ce sentiment de solidarité avec les Palestiniens. Tout comme tous ceux qui ont été traumatisés par l'histoire européenne se sentent naturellement proches d'Israël. Tant qu'on n'aura pas fait dialoguer ces deux traumatismes, nous n'avancerons pas. Et je ne pense pas qu'il faut balayer d'un revers de la main cette idée des clés, de la mémoire, une reconnaissance symbolique de ce qui s'est passé en 48, parce qu'on a à la fois des gens qui ni la Nakba, qui nous disent « rien ne s'est passé », et ce sont les mêmes qui nous disent « on va leur infliger une nouvelle Nakba ».
Dans c'est pas la catastrophe. Hein,
la catastrophe, dans les mouvements du rabbin Meir Kahana, ce rabbin extrémiste qui a des partisans au gouvernement aujourd'hui, qui était considéré tellement terroriste qu'il était interdit même en Israël et aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui devenus mainstream, ces gens-là. Et tant qu'on n'aura pas offert aux Palestiniens au moins la reconnaissance historique de ce qui s'est passé en 48, de cette expulsion massive, ils auront du mal à accepter. C'est une question de passé qui ne passe pas.
Jeudi, vendredi, samedi, plus de 500 000 Palestiniens, 500 000 personnes sont revenus peu à peu dans le nord de la bande de Gaza, François Secaldi. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve, la défense civile du territoire palestinien s'organise peu à peu. Qu'est-ce que cela change cette journée pour les Palestiniens aussi qui peuvent peu à peu remonter vers Gazaville, qui peuvent remonter le long de cette bande côtière ?
Bah, c'est probablement un sentiment de soulagement, mais qui a un goût amer. Les Palestiniens qui célèbrent ce cessez-le-feu ne célèbrent pas que la guerre s'arrête. Ils célèbrent de n'être pas morts dans cette guerre coloniale, qui est un peu différent, je crois, et cette guerre génocidaire. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut regarder ces célébrations d'un œil un peu différent de celles qui s'expriment en Israël. Quant à leur retour, il faudra voir dans les jours ou les semaines à venir ce qui va être organisé, négocié. Mais je m'étonne en tout cas que les Palestiniens, enfin je m'étonne, mais c'est pas tout à fait un étonnement, que les Palestiniens n'aient pas été consultés dans cette dans ce règlement qui ressemble donc du plan Trump, qui ressemble bien davantage à un règlement colonial comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Le plan Trump a énormément de similitudes avec l'article 22 de la Charte de la Société des Nations, donc du mandat britannique établi en Palestine. Et donc là, il y a quelque chose qui ressemble drôlement et de manière assez effrayante, en fait, à ce règlement qui avait été établi dans les années 20, dans laquelle une puissance tutélaire avec un administrateur colonial, en la personne de Tony Blair, cette fois-ci, accompagnerait supposément donc les populations locales jusqu'au moment où il serait capable de se conduire seul selon des critères définis par la dite puissance. Voilà, donc c'est un retour avec beaucoup d'incertitudes et surtout une mise de côté de l'acteur principal qui est l'acteur palestinien, qui, je le rappelle, est le seul à pouvoir définir pour lui-même, et c'est le seul à pouvoir définir pour lui-même les modalités de son autodétermination.
Karim Emile Bitar, une réaction très courte, car j'ai une autre salle de questions.
Je dirais juste, Tony Blair, c'est l'image qui tue. Tony Blair, c'est véritablement ce qui plombe la crédibilité de ce plan. C'est quand même celui qui avait cautionné l'invasion anglo-américaine de l'Irak et considéré aujourd'hui par la quasi-totalité des géopolitologues comme la plus grande erreur stratégique de ces 50 dernières années. C'est quelqu'un qui a fait des business douteux avec Kadhafi, avec tous les dictateurs arabes. C'est quelqu'un de dangereux, qui n'est pas considéré comme un interlocuteur honnête entre les différentes parties. Et ce n'est certainement pas sa présence qui va permettre d'avancer dans cette cicatrisation mémorielle. Il faut rappeler que de l'aveu même de la direction des renseignements militaires israéliens, 87% des victimes sont des civils dans cette guerre. En Ukraine, c'est 10%. Même sous le régime sanguinaire de Bachar el-Assad, on était à 30%. Là, on est à 87% de victimes civiles, des chiffres qu'il faut comparer à ceux du Rwanda ou de Srebrenica.
Il y a un discours que l'on voit revenir en force depuis quelques jours, notamment dans le champ médiatique, c'est le discours du rapprochement des peuples par le dialogue, par la culture, par la littérature, par les arts. Est-ce que vous portez un regard, j'allais dire, bienveillant ou plutôt critique sur ce type de discours qui veut, au fond, rapprocher le peuple palestinien du peuple israélien? Est-ce que c'est le bon moment, selon vous, Anne-Sophie Sebon-Bekash, pour porter ce type de discours-là?
Oui, moi je pense que c'est toujours le bon moment et que tout travail de société civile à société civile est toujours bénéfique. Il a continué d'ailleurs à travers certaines ONG israéliennes et palestiniennes en temps de guerre. Il doit se poursuivre et d'ailleurs je pense que c'est là que l'Europe peut jouer un rôle important dans ce soutien aux sociétés civiles. Nous, on soutient une organisation qui s'appelle Alliance for Middle East Peace, qui a été soutenue aussi par le Congrès américain et qui fait ce travail d'identification des ONG palestiniennes et israéliennes prêtes à travailler ensemble. Ce travail, il est essentiel pour changer effectivement les mentalités, changer le narratif, comme j'en parlais tout à l'heure, et aussi faire ce travail effectivement mémoriel des deux côtés. C'est toujours important de maintenir ce lien et ça le sera encore plus dans les années à venir.
Une réaction, François Sekeldi, puis Karim Emile Bitar, sur ces discours-là. Est-ce qu'il vous semble, j'allais dire, survenir au bon moment, sans juger leur intention noble, évidemment? Est-ce qu'il vous paraît efficace?
À mon avis, bon, c'est toujours souhaitable, même si j'ai du mal à voir dans les circonstances actuelles comment ces populations pourraient dialoguer. C'est par ailleurs le dialogue un luxe des sociétés coloniales. J'ai l'impression...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, un luxe des sociétés coloniales, le dialogue?
Bien, parce que c'est facile de vouloir dialoguer quand, malgré tout, on n'accorde rien et on ne laisse aucune possibilité à l'autre de s'exprimer, parce que c'est ce qui se passe dans les faits. Les Palestiniens ne souhaitent pas, enfin, je ne vais pas parler en leur nom, mais je pense qu'ils souhaitent davantage pouvoir s'autodéterminer et être tranquilles plutôt que de dialoguer, en fait. C'est, à mon avis, comme dit l'expression, ils veulent... je ne l'ai plus. Ils ne veulent pas la paix, ils veulent qu'on leur fiche la paix, peut-être, quelque chose comme ça.
C'est une formule qui a du sens ce soir.
Voilà.
Karim Emile Bitar.
Moi, je vous rejoins, Quentin, sur le fait que cet engagement culturel est souhaitable et nécessaire. On a vu avec l'Égypte, avec la Jordanie, que la paix, avec les accords d'Abraham, que les paix par le haut ne fonctionnaient pas. quand c'est un leader autoritaire qui décide pour des intérêts économiques stratégiques de dire « je vais faire la paix avec Israël » et que les opinions publiques ne suivent pas, cela ne conduit pas à des paix durables. Si vous faites des sondages aujourd'hui, même dans les pays qui ont normalisé ou qui ont fait la paix avec Israël, une grande partie de l'opinion publique les rejette. Ce qui voudrait dire paradoxalement que la démocratisation du monde arabe serait une mauvaise nouvelle pour la paix.
Mais peut-on, pardonnez-moi Karim Emil Bitar, pour reprendre l'argument de François Sekaldi, peut-on demander aux Palestiniens aujourd'hui qui vivent sous les ruines, dans la mort encore aujourd'hui, de dialoguer à travers les arts et la culture? Comment exiger cela aujourd'hui d'un peuple qui a tout perdu?
Tout dépend avec qui on dialogue et comment on dialogue. Je pense que le comité Nobel aurait été bien inspiré d'octroyer son prix à l'initiative comme celle du concert du divan occidental-oriental fondé par le grand pianiste israélien Daniel Barenboim, immense chef d'orchestre, et par un grand intellectuel palestinien, Edward Said. Vous avez des musiciens arabes et israéliens qui vont chaque année ensemble à Auschwitz, qui réfléchissent aux questions mémorielles, qui font de l'art. Cela, ils ne prétendent pas faire la paix. Ils savent que c'est une façon de réduire le degré de haine pour un moment donné, pour pouvoir ensuite mettre sur la table les questions géopolitiques importantes. Donc moi, je pense que c'est souhaitable et nécessaire. Je comprends les réserves qui sont exprimées, parce que l'urgence pour les Palestiniens aujourd'hui, c'est de survivre. Ils ont échappé à une famine, du moins ceux qui ont survécu ont échappé à une famine. L'urgence, c'est de relever la tête, de ramasser des dizaines de milliers de cadavres. On a rarement vu une guerre aussi destructrice. Donc ça nous ramène à la phrase de Tacite, ils ont pillé, décharné, et ils appellent ça la paix. C'était un sénateur romain qui était devenu critique de l'impérialisme de la République romaine.
Anne-Sophie Seban-Bekash, levez peut-être un mystère pour nous. Est-ce que dans la société israélienne, Donald Trump est aujourd'hui perçu majoritairement comme un héros légitime, ou ce n'est que l'écume médiatique que l'on perçoit depuis l'Europe, depuis la France?
Non, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il a réussi à faire pour la libération des otages, parce qu'encore une fois, c'était vraiment l'épée Damoclès qui rôdait au-dessus de la société israélienne depuis 2 ans, de quelques soient les bords politiques, si vous voulez, tant qu'il y avait des otages à Gaza dans les mains du Hamas, la société israélienne ne respirait pas. Et donc là, tout bord confondu, et pour avoir rencontré des familles d'otages vraiment de tous les bords politiques, tout le monde remercie aujourd'hui le président Donald Trump d'avoir réussi à obtenir cette libération de tous les otages, vivants et morts. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Karim Emil Bitar, en quelques mots, pour vous, c'est un héros légitime? Évidemment non, mais je veux dire, c'est sa victoire personnelle aussi ce soir?
Certainement, mais les Israéliens risquent de déchanter assez vite, car le tempérament de Trump étant ce qu'il est, si Israël reprend sur tel ou tel prétexte cette guerre et qu'il ne peut plus se parer des lauriers du faiseur de paix, il pourrait se montrer extrêmement sévère envers Israël. Trump n'est pas un idéologue, ce n'est pas comme Biden, quelqu'un qui a été nourri au soutien à Israël. Trump est purement transactionnel, il pourrait donc monter le ton si Israël reprenait cette guerre. C'est pour ça qu'il a confirmé aujourd'hui que pour lui, cette guerre était terminée et qu'il n'acceptera donc pas que l'on la relance sous tel ou tel prétexte fallacieux.
Merci beaucoup à tous les droits de cette discussion, de ce débat, même François Sekaldi, Anne-Sophie Seban-Bekash, Karim Emil Bitar, et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Antoine Héral, Juliette Moellic, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancet. Juste après le journal, une question qu'apprendre des contextes pré-révolutionnaires, on en parlera avec l'historien américain Robert Darnton.